Silence.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM, www.redem.com. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien, bonjour à nos chers auditeurs, merci de nous recevoir chez vous. On est tellement contents de vous retrouver tout le temps, Damien et moi, n'est-ce pas Damien?
Tout à fait, oui.
On est toujours très contents pour ça.
Et merci à toi, Anne, de nous proposer des films à regarder pendant cette période de fermeture des cinémas. On n'annonce pas les films qui sortent, car il n'y a pas de films qui sortent. Mais on fait un point autour de la Cinémathèque mondiale pour retrouver des films qui t'ont marqué proprement. Et aujourd'hui, on va commencer avec...
Justement, avant de commencer, il y a un petit truc, parce que je me suis aperçue... Alors, j'ai parlé la semaine dernière d'un film de Jean-Pierre Melville qui s'appelle « L'aîné des fers chauds » avec Jean-Paul Belmondo. Oui. Et je me suis aperçue que j'avais absolument oublié de donner le synopsis, de donner l'histoire.
D'accord.
Alors, je me suis dit, je vais vite donner le synopsis de « L'aîné des fers chauds ». Voilà, que ça ce sera fait. Je suis désolée, mes chéris, franchement. Oh, mais comment j'ai fait ça, moi? Eh bien, c'est quoi L'aîné des fers chauds de Jean-Pierre Melville, donc, avec Belmondo, avec Michel Mercier et Charles Vanel, hein. Que des bons. Eh bien, c'est pour éviter un scandale financier, un vieux banquier, Charles Vanel, fuit Paris pour l'Amérique. Il engage comme secrétaire particulier, entre guillemets, et garde du corps, un jeune boxeur. C'est Jean-Paul Belmondo, bien sûr. Le réalisateur donc du Samouraï et du Deuxième Souffle, c'est-à-dire Jean-Pierre Melville, donc il filme là l'affrontement amour-haine de deux fauves imaginés par Georges Simenon avec un talent et un style unique, identifiable dès la première image du Melville à l'état pur. Voilà. Et oui, puisque c'est tiré donc d'un roman de Georges Simenon, L'aîné des fers chauds. Je voulais rattraper ça quand même parce que mince, c'est pas bien, mais je suis vilaine.
Tu as bien fait, c'est que tu étais tellement partie dans ton explicatif que tu as oublié le synopsis.
Ah oui, puis à Radio Entre-deux-Mers, attends, on va jusqu'au bout de ce qu'on dit. Hein. Donc il faut, quand on oublie quelque chose, ben, il faut en parler. Oui. On est d'accord.
Donc chose est réparée. Et donc, aujourd'hui, on va débuter avec un film de 1942 qui s'appelle « Ma femme est une sorcière ».
Eh oui, « Ma femme sorcière ». Ce titre, ça fait un drôle d'effet, ce titre quand même, voilà. Et c'est un film d'un très très grand réalisateur, mais pas que ça d'ailleurs, il s'appelle René Clair. C'est donc un réalisateur scénariste français, mais il est aussi... membre de l'Académie française entre 1960 et 1981. Malheureusement, c'est sa date de décès, il avait 82 ans. Alors, pour tout vous dire, mes chéris, je vais vous dire qu'il était au fauteuil 19 à l'Académie française. Mais oui. Donc, voilà, ça ne sert à pas grand-chose de connaître le numéro du fauteuil, mais bon, après tout. Ce film dure 1h17. Alors on va commencer par les acteurs. On a Véronica Lake, c'est elle la sorcière, magnifique, talentueuse. On a Frédéric March, pareil, qui était un grand acteur. On a Suzanne Howard. Ben c'est un beau casting. C'est un très beau casting. Alors c'est quoi ça? De toute façon, c'est une comédie, hein, attention, hein, c'est léger, c'est poétique, et c'est vraiment... et c'est vrai que Véronique Lake, la sorcière, a un charme absolument envoûtant. Ça, c'est tout à fait vrai. Alors, ça se passe au XVIe siècle, au début, c'est le XVIe siècle. Un sorcier et sa fille Jennifer, avant d'être brûlés, jettent un sort aux descendants de la famille du juge Woolley qui a prononcé leurs exécutions. Ils feront tous des mariages malheureux. Voilà. Oula, méchant sort quand même. Des siècles plus tard, Wallace Woolley, qui est joué donc par Frédéric Marsh, va se marier. Le sorcier et sa fille reviennent sur Terre pour empêcher ce mariage. Mais Jennifer s'amourache de Wallace. Et donc il y a tous les ingrédients là-dedans, hein, d'une comédie pétillante, il y a aucun problème, quoi. Le tout est porté donc par deux acteurs formidables, hein, quand même, hein, Frédéric Marsh et Véronique Lake. C'est un duo, comment on peut dire, un duo glamour, voilà, et drôle aussi. Voilà, c'est le film de sorcière. En fait, les critiques disaient à l'époque que c'était le meilleur film de sorcière de tous les temps. Ah ben oui. Non, c'est vraiment, c'est plein d'humour en même temps. C'est un très très beau film, c'est américain. René Clair est français, mais c'est la nationalité du film, c'est américain. C'est-à-dire qu'il n'y a que des acteurs américains d'ailleurs. Donc voilà, bah oui, c'est très très beau, très chouette, très drôle. C'est pour tout le monde, hein, toute la famille peut regarder. Pardon, absolument, très chouette. Voilà, ma femme est une sorcière.
Ma femme est une sorcière, donc, de René Clair.
Oui.
Et oui. Le second film proposé aujourd'hui est un film de 1948 de Sacha Guitry qui s'appelle « Le diable boiteux ».
Ah oui, alors magnifique, magnifique. Alors ça, c'est un petit trésor du cinéma. Le diable boiteux, et oui, de Sacha Guitry. Alors celui-là, tu l'as dit, 1948, bon, il dort pas, je sais pas, je pense pas qu'il dorme, mais il dure 1h26. Et Sacha Guitry, ben, on le connaît quand même, hein, même si on n'est pas trop habitué au cinéma, on connaît son nom. Sacha Guitry, réalisateur, scénariste, dialoguiste, auteur, français. Il est décédé lui à 72 ans en 1957. Alors donc là, on a dans Le Diable Boiteux, dans les rôles principaux, on a Sacha Guitry, c'est lui, le Diable Boiteux. On va voir qui est ce Diable Boiteux. On va le dire tout de suite. On a Lana Marconi. Alors Lana Marconi, c'était une de ses épouses, parce qu'il en a eu quatre, si je ne m'abuse. Et elle, c'était l'épouse de 1949 à 1957, c'est-à-dire la dernière épouse, puisqu'il est décédé en 57. Film, Maurice Escande, Jean de Beaucourt. Alors Jean de Beaucourt, pour le placer un peu, c'est la, si vous connaissez le Don Camillo, les Don Camillo avec Fernandel, ben la voix de Jésus, c'est la sienne, Jean de Beaucourt. Voilà, ça donne une petite idée. On a Pauline Carton, on a Jean Piat aussi. C'est-à-dire que Jean Piat, de Beaucourt et Escande faisaient partie de la Comédie française. Entre parenthèses, c'est un joli casting, c'est sûr. Alors Sacha Guitry, il a quand même écrit un peu plus de 180 pièces de théâtre qui ont toutes eu du succès d'ailleurs, et dont il a fait des films. C'est vraiment... Il était le fils de Lucien Guitry. Je nomme son père parce que Lucien Guitry, c'était un très grand comédien de son époque, c'est-à-dire les années 20. Alors, par exemple, on disait de lui, à l'époque, et on le dit aussi maintenant, que c'était l'égal masculin de Sarah Bernard, qui était une grande, grande, grande comédienne. Donc, voilà, on pensait que c'était son... Enfin, on jugeait que c'était son égal masculin, ce qui était quand même un beau compliment. Alors, le diable boiteux... Mais alors on va dire qui est le diable boiteux. Il s'appelle, c'est Monsieur de Talleyrand. Et oui, Talleyrand, c'était un ministre. Il a tout fait, cet homme-là. Il a été ministre. Il a été. C'était quand même quelqu'un qui était dans la politique absolument. Hein. C'était un, comment dire, c'est une sorte de biographie en fait de Talleyrand. Diplomate, politicien, qui a soutenu d'ailleurs plusieurs régimes. C'est quand même... son but, en fait, lui, à Talleyrand, c'était de servir la France. Ouais. C'était vraiment quelqu'un qui aimait la France, Talleyrand. Et il était là tout le temps, en fait. C'est très curieux. Il y a eu plusieurs régimes, dont Napoléon, d'ailleurs, hein, Napoléon Ier, avec qui il se disputait assez souvent, assez fréquemment. C'est le dernier qu'il a connu, d'ailleurs. Mais c'était un diplomate assez versatile, quand même. Hein. Et il a été tour à tour républicain, conseiller de l'empereur, royaliste. Enfin, voilà, quoi. C'est... Donc, cette histoire, le diable boiteux, c'est l'histoire de l'un des hommes les plus puissants de France, raconté à travers une série de croquis et d'anecdotes. C'est magnifique, le diable boiteux. Bon, c'est un petit chef-d'œuvre. Hein. Vraiment, c'est... à l'époque, il a marché absolument. On disait que c'était un film admirable par la finesse de ses dialogues et l'élégance de sa mise en scène. Ça, et c'est vrai que le film réhabilite un personnage historique, Talleyrand donc, qui a été très souvent décrié. Et du coup, c'est vrai que Sacha Guitry, le grand Sacha Guitry, là, avec ce film, on peut dire qu'il est au sommet de son art. Absolument. Voilà. C'était vraiment... Ah oui, le diable boiteux. Alors moi, mes chéris, j'ai la chance de l'avoir en DVD. Il se trouve hein, facilement, hein, pas cher du tout. Et ce qui me donne l'occasion de le regarder dès que j'en ai envie, et je le regarde assez souvent.
Très bien.
Ce qui était écrit à l'époque, et c'est ce qu'on écrit maintenant d'ailleurs aussi, quand on parle du diable boiteux.
Ok. Bon.
Eh oui.
Très bien, donc pour le diable boiteux. Ensuite, nous allons retrouver un film de 1954 qui s'appelle Voyage en Italie.
Alors, oui, ça, Voyage c'est... en Italie. Ah bah oui, c'est pareil. C'est un vrai régal ce film, c'est un vrai plaisir. Il dure 1h37, il y a du drame et de la romance, mais surtout de la romance d'ailleurs. Il a été repris en fait en juillet 2021, il n'y a pas longtemps. Date de reprise, c'est un film de Roberto Rossellini. Alors Roberto Rossellini, qui est un grand réalisateur scénariste italien, il est décédé en 1977, il avait 71 ans. Alors dans ce film, oh ben j'ai envie de donner les noms des acteurs tout de suite, dans ce film on a Ingrid Bergman, on a George Sanders, Maria Mauban, oula, pareil, c'est un magnifique casting, hein. Absolument. Alors, concernant Roberto Rossellini et Ingrid Bergman, ils ont été mariés de 1950 à 1957. Et oui, ils ont eu une fille d'ailleurs qu'on connaît, qui s'appelle Isabella Rossellini, et qui est une grande artiste également. Alors, qu'est-ce qu'on lui doit Roberto Rossellini, ben, par exemple, en 1945, Rome, ville ouverte avec Anna Magnani, magnifique. 1946, Paisa, c'est une, en fait, c'est un manifeste néo-réaliste qui fait revivre, alors vraiment sans fioriture, hein, la libération progressive de l'Italie par l'armée américaine. Paisa, c'est très beau. 1950, alors pareil, un film magnifique, Stromboli, avec Ingrid Bergman dans le rôle principal. Stromboli, c'est pareil, c'est petite merveille. Donc, voyage en Italie, je ne sais pas si je le dis, ça dure 1h21, et c'est quoi ce voyage en Italie? Eh bien, c'est un couple d'Anglais qui est en train de se défaire. Ce couple se défait pour mieux se retrouver à l'occasion d'un voyage à Naples, où ils se sont rendus pour hériter d'un oncle. Voilà, c'est ce voyage. Alors évidemment, ce sont des bourgeois, hein, c'est un couple de bourgeois, voilà. Et donc ils doivent régler cette histoire d'héritage absolument. Ils découvrent l'Italie. Donc cette découverte de l'Italie, en fait, ira de pair avec la mise à nu de leur mariage et la prise de conscience de leur incommunicabilité. Alors ça intègre le néo-réalisme, ça c'est tout à fait Rossellini. Et puis en même temps, il y a une étude psychologique, voilà. C'est-à-dire que dans ce film, le réalisateur, il a instauré une nouvelle forme de narration cinématographique qui préfigure tout autant le cinéma d'Antonioni que celui de la Nouvelle Vague. Alors c'est un chef-d'œuvre incontournable, il est classé comme ça. Voilà, c'est vraiment... ouf. magnifique aussi. Bah, moi, dès que je peux, je me refais le DVD parce que vraiment, j'ai la chance de l'avoir, mais il se trouve facilement, mes chéris, il n'y a aucun souci. Et là, on peut louer tous ces films en VOD, on est bien d'accord, Damien?
Oh oui, probablement. Hein. Si on cherche un peu, on les trouve.
Ah oui, on les trouve, hein, on les trouve. Tout à fait même. Donc c'est vraiment, c'est du beau cinéma. Hein. C'est du beau cinéma agréable. Et qu'on peut regarder tous ensemble, en fait.
Donc,
de toute façon.
Voyage en Italie, donc, voyage, de 1954. Et nous allons retrouver un réalisateur qu'on a parlé en début de d'émission. C'est Sacha Guitry pour un film de 1958 avec Fernandel qui s'appelle La vie à deux.
Oui, La vie à deux. Ah, ben ça, c'est toute une histoire, La vie à deux. Aïe, 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 La vie à deux. Ouh, là, 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 là. Donc, il est sorti, comme tu dis, oui, en 58. Ça dure 1h40. C'est une comédie française, de toute façon, de Clément Duhour. Alors, Clément Duhour, on ne connaît pas trop son nom. Mais en fait, c'est pas lui. En fait, lui, il est surtout producteur, parce que ce qu'il y a, c'est que je sais pas pourquoi. Cette fois, je fais quand même du Sacha Guitry, puisque La vie à deux, c'est aussi de Sacha Guitry, et c'est le dernier film de Sacha Guitry. Ça a été son dernier, celui-là. La vie à deux, avec Clément Duhour. Voilà. Eh oui, c'est pour ça que c'est en même temps une curiosité, le dernier film de Sacha Guitry. Alors là, dans les acteurs, c'est pareil, on a un très joli casting, on a Pierre Brasseur, Pauline Carton. Ah oui, alors Pauline Carton, c'est une artiste, en fait, qu'on trouve dans tous les films de Sacha Guitry. Elle est là, elle est toujours là dans tous ses films. C'est dans toutes ses pièces de théâtre également. Il y a Pauline Carton. Pauline Carton, c'était une actrice, elle a eu une vie très particulière parce qu'elle a toujours vécu à l'hôtel. C'est une dame qui ne voulait pas ni avoir une maison, ni un appartement. Elle vivait à l'hôtel. Hein, et comme elle gagnait correctement sa vie, ça ne devait pas être très désagréable quand même. Voilà. Oui, c'est très curieux. Alors là, donc, on a Mathilde Casadesu également. Gilbert Bokanowski. Alors si on est habitué un peu à ce cinéma, au cinéma de ces années-là, Gilbert Bokanowski, on le connaît. Quand on le voit physiquement, on le connaît, on l'a déjà vu, on se dit qu'on l'a déjà vu dans d'autres films. On connaît moins son nom, mais on le reconnaît physiquement. En tout cas, dans ces années-là, bien sûr, hein, puisqu'on est toujours dans les années 50-60, 70, disons, 50-70, où il y a eu quand même de très bons films qui sont sortis. C'était une époque assez intéressante pour ça, d'ailleurs, justement. Alors c'est quoi La vie à deux? Eh bien, devant son notaire, Monsieur Stéphane, ses amis Vatier et Sauvage, Pierre Caro, auteur à succès, rédige son testament. Devant son notaire, Monsieur Stéphane, il charge deux généalogistes, Pommier et Santis, de retrouver les couples qui étaient les protagonistes de son meilleur ouvrage, La vie à deux. S'ils vivent toujours, ils hériteront. Les deux notaires vont alors s'appliquer à trouver les accros qui élimineront successivement les couples concernés. Mais oui, parce que s'il n'y a pas un couple qui est toujours en couple, hein, ce que veut cet homme-là, c'est que retrouver un couple qui est toujours ensemble, un couple pour qui ça marche bien et qui est toujours ensemble et qui s'aime toujours. Donc les deux notaires qui sont quand même des petits escrocs là, souhaitent ne pas trouver de couple qui tienne encore le coup pour pouvoir garder l'argent. Parce que si ça ne va pas à un couple, ça ira dans leur poche à eux. Voilà. Donc c'est quand même, mais c'est une comédie, hein. Donc effectivement, c'est quand même tout ça, c'est pas des gars très sympas quand même, là, les notaires qui doivent chercher les couples. Ah ben j'ai oublié quand même, oh là là, j'ai oublié qu'il y avait deux Funès. Bon, toi Fernandette, tu l'avais dit, mais il y a deux Funès également dans le film. Qui a un très chouette rôle. Hein. Mais oui. Alors évidemment, là, Sacha Guitry, il a imaginé ce notaire, quoi, qui est chargé par un auteur de léguer sa fortune aux couples qui l'ont inspiré. Ouais. C'est quand même... c'est pas mal, quand même, comme idée. Voilà, donc La vie à deux. Eh oui. Bon, ben, Sacha Guitry, on en a déjà parlé, donc je ne recommence pas. Mais ça dure 1h40, le dernier film de Sacha Guitry, qui est avec Clément Duhour, là, qui était derrière comme producteur, et puis pour mettre un peu la main à la pâte. Voilà, dernier film de Sacha Guitry. La vie à deux, c'est très drôle, ça se regarde. Oh ben, il y a bien d'autres noms qui sont très connus. Hein. Il y a Lily Palmer, il y a Edwige Feuillère, Gérard Philippe. C'est un casting d'enfer. Hein. Robert Lamoureux, Daniel Darieux, Sophie Desmarais, Marianne Mauban, il y a Jacques Duménil. Ils sont très nombreux. Pierre Mondy, Jacques Morel, Jean Tissier, Madeleine Lebeau, enfin tout ça. Jacques Joanneau. Enfin, ils sont très très nombreux puisque c'est une recherche de couple, et donc ça fait penser à des petites scénettes, quoi, finalement, à chaque fois.
D'accord.
C'est pour ça qu'il y a un casting quand même assez important, avec des gens qui sont devenus très très célèbres, beaucoup plus célèbres encore après.
Oui.
Et oui. Voilà, on a tout dit sur La vie à deux.
Voilà pour La vie à deux, et on reste à la même époque, en 1959, avec un film qui s'appelle Salomon et la reine de Saba.
Ah oui, oui. À mon goût, je pense que c'est le meilleur film sur Salomon et la reine de Saba qu'on puisse trouver, parce qu'il y en a eu d'autres, mais celui-là, c'est vraiment le meilleur, quoi. C'est le plus beau. Voilà. Et puis c'est quand même un film réalisé par King Vidor. King Vidor, c'est un très 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 grand réalisateur, hein, aussi, quoi. C'est vraiment, il est réalisateur scénariste américain. Et alors là, décidément, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais c'est son dernier film. C'est, bon, je parlais de La vie à deux, dernier film de Sacha Guitry. Eh bien, Salomon et la reine de Saba, c'est le dernier film de King Vidor. Et oui, et ben oui, décidément, c'était aussi son dernier film. Et King Vidor, oh ben oui, King Vidor, je sais pas, je pense que dans toute sa filmographie, on peut retenir un tas de choses, quoi. L'homme qui n'a pas d'étoile en 55, Guerre et paix en 1956. Ah, ce Guerre et paix qui est extraordinaire, puisque c'est un Guerre et paix avec Audrey Byrne, avec Mel Ferrer. À mon avis, c'est aussi le plus beau de tous les films Guerre et paix qui ont été tournés. Il y en a eu énormément, il y a eu des téléfilms également. Mais celui-là, celui de 56, Guerre et paix, à mon avis, c'est le meilleur. Hein. Pff, Salomon, ça c'est sûr. C'est une réussite. Une romance américaine en 44 aussi, qui est très jolie. Très bon. Enfin, c'était un. Bon, il est reconnu comme très très grand réalisateur parce qu'il a fait. Il est décédé en 1982, il avait 88 ans. Il a eu plein de prix, bon, évidemment, comme les autres d'ailleurs, tous ceux que j'ai nommés jusqu'à maintenant, qui ont été énormément primés, normal. C'était du beau, beau, beau cinéma. Alors là, donc, on a, dans ce film, on a Yul Brynner, c'est Salomon. On a Gina Lollobrigida, la belle, magnifique, la splendide Gina Lollobrigida, qui est la reine de Saba. On a George Sanders également, dont on avait déjà parlé tout à l'heure pour Voyage en Italie. Grand acteur, beaucoup de talent, tous ces gens-là. Alors, et c'est vrai. Est-ce qu'on m'entend, là? Je m'inquiète.
Oui, oui, tout à fait, on t'entend bien.
Alors, et quand Salomon... Alors, c'est quoi cette histoire? C'est quand Salomon succède à son père, le roi David, il fait le serment de reconstruire Jérusalem et de redonner sa puissance à Israël. Et tandis que Salomon entame un règne de sagesse, son frère, Adonija, le pharaon d'Égypte, envoie la belle reine de Saba le séduire afin de le discréditer et renverser son trône. C'est beau, la famille, quand même, finalement, à l'époque. C'est quand même son frère. Eh ben oui. Alors, c'est une épopée gigantesque, hein, vraiment, et très ambitieuse également, d'ailleurs. Et c'est le dernier film, c'est ce que je disais, hein, de ce grand cinéaste, King Vidor. Ah ben oui, on lui doit Duel au soleil aussi, un grand, grand film. Alors, il y a eu un... Bon, là, pour la petite histoire, c'est vrai qu'il y a eu un budget impressionnant, hein, et plusieurs milliers de figurants et de costumes. Ils sont très beaux, d'ailleurs, les costumes sont magnifiques. C'est une grande fresque historique qui appartient effectivement au catalogue des classiques spectaculaires de l'âge d'or d'Hollywood. Et oui. Ah oui, c'est un... très très beau film. C'est pareil, j'ai le DVD, quand je peux le regarder, je le regarde, parce que donc si on a 2h15 devant soi et qu'on peut regarder un film, on peut se prendre Salomon et la reine de Saba. Il y a tout là-dedans, il y a tout.
Et c'est un film qu'on peut classer dans la catégorie péplum.
Ah oui, tout à fait, absolument.
D'accord.
Oui, 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 absolument. Oui, oui, c'est tout à fait bien ce que tu dis là, Damien, c'est tout à fait ça, oui. Mais il est, celui-là, vraiment, c'est, moi je trouve que c'est l'histoire de Salomon et de la reine de Saba, c'est retransmise en film, je crois que c'est le plus beau en fait. Hein. Et c'est quoi? Bah, c'est la plus ancienne des histoires d'amour, ça, Salomon et la reine de Saba. Eh oui. Et ils ont existé quand même. Hein. C'est pas historique. Voilà. Eh ouais. Salomon.
Et on...
bah, tu connais Salomon, tu sais, tu connais un peu le jugement qu'il avait, le jugement qu'il a rendu avec ces deux femmes-là, qui se disputaient un enfant, un bébé. Elles se disputaient un enfant, elles sont venues le voir, et chacune des femmes revendiquait l'enfant, c'est-à-dire que chacune d'elles voulait garder l'enfant pour elle. On ne savait pas, on ne savait plus à qui il était, enfin en tout cas Salomon, quand il a commencé, quand il les a écoutées, quand elles sont venues se plaindre, il ne savait pas à qui appartenait l'enfant. Et elles ne le disaient pas. Chacune disait qu'elle était la mère, mais elles ne disaient pas laquelle était la vraie mère. Alors, il ne pouvait y avoir qu'une mère, bien sûr. Et donc, à un moment donné, il a écouté, et puis il leur dit, bah, écoutez, puisque vous voulez chacune cet enfant, nous allons le couper en deux, et chacune de vous aura une partie de l'enfant. Et à ce moment-là, il y en a une des deux qui a dit non, non, oh non, majesté, non, non, surtout pas, donnez-lui, qu'elle le prenne, non, non, je ne veux pas qu'on coupe l'enfant, donnez-lui l'enfant. Et il a su qui était la mère à ce moment-là.
D'accord.
Voilà, la
okay.
Vraie mère.
Eh bien oui, eh bien, parce que c'était un peu radical quand même comme solution.
Voilà. Il était très sage, hein. Donc c'est une... Mais c'est assez connu quand même, ça. Voilà. C'était quelqu'un, il était sage, il devait être super intelligent, on dirait maintenant. Voilà.
Et nous, ensuite, nous allons poursuivre avec un film sorti à la fin des années 87 exactement. C'est un film qui s'appelle Bagdad Café.
Ah oui. Ah ben ça, alors ça. Ça, c'est le... Ouh là 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 là. Ça, c'est le summum. Ah ben oui. Bagdad Café, oui, 1987, ça dure 1h28. C'est réalisé par un monsieur qui s'appelle Percy Adlon, qu'on ne connaît pas trop en fait. Il a 85 ans aujourd'hui d'ailleurs, ce monsieur. C'est un réalisateur, scénariste, producteur de cinéma et de télévision allemand. Et en fait, on a vu très peu de films chez nous, très peu de films de ce réalisateur. Hein. Ils sont... Ouais. Alors qu'en Allemagne, ça marchait très fort pour lui. On en connaît très peu, sauf Bagdad Café, bien sûr, qui a fait le tour du monde absolument, qui a eu un César d'ailleurs en 89 du meilleur film étranger. Bah oui, c'est une voilà, c'est extraordinaire. Alors lui, Percy Adlon, il a commencé sa carrière en 1975. Bon, là, maintenant, évidemment, je pense qu'il a arrêté, mais jusqu'en 1987, hein, il a produit beaucoup de films allemands. Il produit pour la télévision, ça, je l'ai déjà dit. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même, qui a fait beaucoup de choses quand même. Mais dans son pays, en Allemagne, on en connaît très peu. Dommage, on connaît très peu de ses films. Et alors oui, Bagdad Café, oh là là, mais quand il est sorti, il y a une musique aussi extraordinaire. La musique de Bagdad Café, j'en bégaye moi, qui est magnifique, qui a fait aussi le tour du monde d'ailleurs. C'est une musique qui est très belle. Alors c'est quoi cette histoire? Mais après s'être disputée avec son mari, Jasmin, une femme d'origine bavaroise se retrouve seule en plein désert, non loin de Las Vegas. Elle s'installe au Bagdad Café, un motel poussiéreux qui fait station-service, tenu par Brenda, une femme bruyante et perpétuellement stressée. Dans cet étrange décor, Jasmine. Ben, Jasmine, en fait. Hein. J'ai dit Jasmine. Je suppose qu'on prononce Jasmine, il n'y a pas de au bout, mais ça doit être Jasmine. Jasmine inspire d'abord méfiance. Peu à peu, elle se rend indispensable et redonne vie au Bagdad Café. Ah oui, c'est... Et alors, y a une critique qui est sortie à ce moment-là qui disait ceci. On l'emporte avec soi. On y repense en souriant, longtemps après. Il vous rend heureux, un peu baba. C'est peut-être une dope, ce film. Eh oui. Mais vraiment, c'est absolument magnifique. C'est un ravissement. Et alors, les acteurs, c'est pareil, quoi. On a quand même Jack Palance. C'était dans... Je sais pas si c'est pas son dernier film, d'ailleurs, Jack Palance, là. On a CCH Ponder, c'est elle qui est stressée comme ça, qui s'occupe, qui est la patronne, qui est vraiment très stressée, effectivement. Et on a alors là la sublime, elle est extraordinaire, cette actrice, Marianne Sackbrecht. Alors Marianne Sackbrecht, c'est une actrice allemande. Mais dans ce film, elle est extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. C'est un ravissement, ce film. Hein. Je me souviens être allé le voir au cinéma, à l'époque, et en sortant, franchement, j'ai cherché le DVD. Je me suis dit, je voudrais que ce film me le repasse régulièrement. Parce que si tu n'es pas très bien au début du film, vraiment, à la fin du film, tu es en pleine forme. Et alors, c'est pour ça que la critique là, disait que c'était une dope. Enfin, je ne sais pas si on dit dope ou dope, ça dopait, voilà. Ça dopait, effectivement, c'était une dope ce film. La fin, on est en pleine forme à la fin. Oui. Ah ouais. C'est vraiment, c'est un film à conseiller quand on ne va pas bien. Voilà.
Donc, Bagdad Café. Et on va terminer avec un film sorti en 2006 qui s'appelle Mon frère se marie.
Oui, alors là, oui, oui, sorti en 2006, Mon frère se marie. Alors c'est un film de Jean-Stéphane Bron. Alors Jean-Stéphane Bron, on ne connaît pas vraiment son nom, en fait, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des noms qu'on retient plus facilement, mais lui, c'est un réalisateur, donc scénariste français, et il a réalisé beaucoup de films aussi. Il a surtout réalisé des documentaires. Ces messieurs, mais qui sont très chouettes. Et alors le dernier, on en avait parlé à l'antenne de Radio Entre Deux Mers, en 2019, il a sorti Proxima. C'était co-réalisé d'ailleurs avec Alice Vinocourt. Et c'est l'histoire d'une spationaute, on en avait parlé. Spationaute qui par rapport à son métier se pose des questions. Elle a un enfant, elle a une petite fille, et elle se pose des questions par rapport à sa petite fille. C'est Eva Green qui a le rôle d'ailleurs, une des filles de Marlène Jobert. C'est elle qui a le rôle principal, on en avait parlé. Et puis il a quand même réalisé énormément de documentaires très intéressants, plus d'une dizaine. Il est quand même très jeune, hein, il a 51 ans. Et puis, ce long métrage, là, Mon frère se marie, et puis Proxima, de long métrage. Sinon, il a sorti aussi un film, mais plutôt pour la télévision, de 52 minutes en 2017, qui s'appelle La Vallée. Et c'est inspiré de la fusillade de l'A1, cette histoire de fusillade de l'A1, c'était un homicide par balle qui était dû à un policier vaudois, c'est-à-dire le canton de Vaud, hein, en Suisse, qui fait suite à une course-poursuite la nuit du 17 au 18 avril 2010, là-bas en Suisse justement. C'était des jeunes gens qui volaient des voitures régulièrement, et ce jour-là, ils se font choper par les voitures des policiers, et à un moment donné, une de ces voitures fonce directement sur une des voitures de policiers. Et le policier qui était dedans a eu peur, c'est-à-dire qu'il s'est senti en danger, puisque la voiture fonçait à 140 à l'heure à peu près sur leur voiture, et donc il avait un fusil mitrailleur et il a tiré 7 balles. Et il a tué le chauffeur, c'était un délinquant de 18 ans. L'autre a été blessé. Et d'ailleurs, je crois que l'autre avait écopé de 15 mois de prison ferme, d'ailleurs, celui qui s'en est sorti. Voilà, donc ça a été une histoire quand même assez terrible. Il y a eu la famille du jeune homme décédé à porter plainte. C'est arrivé au tribunal qui a dit que c'était absolument pas un crime, que c'était pas un meurtre, mais que c'était uniquement pour se défendre, quoi. C'était voilà pour bon. Eh bien, je pense, je ne l'ai pas vu, moi, ce film de 52 minutes, mais compte tenu de ce que fait Jean-Stéphane Bron, ça doit quand même, ça doit bien relater cette histoire, probablement. Ça doit être fait assez plutôt bien. Oui, en fait, ils ont déclaré la légitime défense, tout simplement, dans cette affaire. Bon, mais là, c'est pas du tout la même chose. C'était juste pour citer, pour situer un peu ce réalisateur. Ah non, là, oh là là, là on rit. Ah ben oui, on rit, mon frère se marie. Mais absolument. Mais bon, je peux nommer quand même les acteurs tout de suite parce que quand on. Bon, voilà, il y a Jean-Luc Bidault, il y a Aurore Clément. Ce sont deux acteurs français parce que le film est français et suisse. Puisque Jean-Stéphane Bron est suisse, lui, hein. D'origine suisse, donc il y a des acteurs français, il y a des acteurs japonais, voilà, il y a Cyril Trollet aussi. Alors c'est l'histoire de Vin, qui est réfugié boat people. Il a été adopté 20 ans plus tôt par une famille suisse et il va se marier. Sa mère naturelle, restée au Vietnam, saisit l'occasion pour faire le voyage et rencontrer la famille si parfaite qui a aimé et élevé son fils. Mais il y a déjà bien longtemps que cette famille a éclaté et qu'ils ne se supportent plus les uns et les autres. La visite inattendue de Madame Nguyen va mettre tout le monde en émoi. Il va falloir se replonger pour quelques jours dans les rôles oubliés de père, d'épouse, de frère et de sœur. Redevenir une famille idéale, aimante et complice pour jouer une fragile comédie du bonheur. C'est un film qui a été nominé d'ailleurs, ce qui ne m'étonne pas. C'est vraiment très chouette. Hein. On a Delphine Chouillot aussi. C'est pareil, quand on la voit, on l'a déjà vue, on la reconnaît, si on connaît un peu moins son nom. Et on a Kok Dung, on a Man Tu, alors ça c'est des acteurs vietnamiens et japonais aussi. On a Tan Han, voilà, qui sont connus chez eux, mais bon, évidemment, nous, on les connaît beaucoup moins bien. Et voilà, ça dure 1h31. Et vraiment, c'est un plaisir. On rit beaucoup. C'est très... Alors, si... mes chéris, si vous êtes dans ce genre de situation, on ne sait jamais, ou si vous connaissez des amis qui vivent ce genre de situation, c'est-à-dire, il va falloir jouer la comédie du bonheur parce que la famille du jeune homme que vous avez adopté va arriver alors qu'il se marie, donc il faut pas qu'on sente que la famille est complètement désunie. Ça arrive tous les jours, hein. Ça arrive partout. Donc, à voir, si vous connaissez des gens dans cette situation, ou si vous l'êtes vous-même, pourquoi pas, à voir absolument. Ah oui, ah ben oui, c'est une vraie comédie, en fait, quand même. Hein. C'est la vraie comédie, voilà.
Très bien. Mon frère se marie. Donc voilà les 7 films proposés aujourd'hui par Anne pour égayer vos soirées, vos longues soirées à cause du couvre-feu et autres confinements.
Que du bon. Voilà. Que du beau, que du bon.
Histoire de se changer les idées.
Ouais. Non, c'est une jolie sélection qui peut faire du bien quand même en ce moment. Hein. On a besoin de voir des jolies choses, un peu drôles, un peu de tout. De l'aventure, voilà. On en a besoin en ce moment. Ça fait pas de mal. Tant que les cinémas n'ont pas rouvert, hein, on se débrouille autrement.
Et pour l'instant, en plus, on ne peut pas dire quand c'est qu'ils pourront rouvrir, malheureusement.
Ah là là, c'est encore... Eh oui. C'est terrible.
C'est ça.
C'est terrible parce que le cinéma amène quand même beaucoup de choses. Hein, c'est sûr, ça amène de la culture, ça amène du plaisir, ça amène de la détente. Et là, il en faudrait, quoi. Ah oui, Là, on a, tout le monde en a besoin, hein, tout le monde, absolument tout le monde. Et pas que chez nous, en plus. Pas que chez nous. Mmh. Eh oui. Très, eh oui, on ne sait pas.
Très bien.
Dès qu'on saura, on pourra... On verra tous les films qui vont pouvoir sortir, on en parlera bien sûr. On vous le dira aussitôt. Hein.
C'est ça, on n'hésitera pas. Eh bien, merci beaucoup Anne pour tous ces films.
Merci à toi. Merci aussi alors à nos chers auditeurs. Bah, écoutez, hein, comme je dis, hein, soyez heureux le plus que vous pouvez. Et puis passez une bonne semaine. On se retrouve très très rapidement. Je pense bien à vous. Voilà. Faites bien attention à vous. Voilà. Prenez bien soin de vous et de votre entourage. Et n'oubliez pas que je vous aime. Bisous. Bisous.
Silence. Yeah.